Alexandre Dumas, Black, chapitre 33, où l'on voit que les Pékins ont quelquefois la bavaroise querelleuse. L'estaminet hollandais était à cette époque le rendez-vous général des officiers en congé. Tous ceux qui portaient une épaulette, depuis celle de sous-lieutenant jusqu'à celle de colonel inclusivement, se rencontraient sous les lambris bronzés de l'établissement bachique. Tous les rendez-vous militaires se donnaient là, comme les rendez-vous des comédiens se donnaient dans le jardin du Palais-Royal. Un officier, quittant son camp pour passer en Algérie, disait à ceux de ses camarades qu'il laissait en France « À mon prochain semestre, dans 2 ans, nous nous retrouverons à l'estaminet hollandais. » Et à moins que les balles des Kabyles ou la dysenterie n'en eussent décidé autrement, il était rare qu'il manquât au rendez-vous pris. Et cependant, malgré sa destination toute militaire, l'estaminet hollandais avait un caractère tout à fait bourgeois. À l'exception de ceux des élèves des écoles polytechniques et de Saint-Cyr qui vont à l'estaminet hollandais par genre, on n'y apercevait ni shako, ni pantalon garance, ni uniforme. Le militaire, quoiqu'il affecte un grand mépris pour le Pékin, affecte singulièrement l'habit bourgeois, probablement par la seule raison que c'est, chez lui, une passion malheureuse. En effet, tel charmant officier qui mérite toutes les épithètes de distinction et d'élégance, lorsqu'il est orné de son dolman et de sa tunique, ne paraît plus qu'un homme ordinaire, souvent plus qu'ordinaire, quand il a revêtu la classique redingote et échangé son coquet colbac ou son casque étincelant contre le vulgaire gibus. Rappelez-vous ce qu'étaient autrefois les Turcs et ce qu'ils sont depuis que, suivant la loi du progrès, Mahmoud leur a imposé la redingote bleue et la calotte rouge. Puis, et ceci est la circonstance atténuante, l'officier, qui a peu l'occasion d'user ses habits de ville, les conserve avec ce soin religieux que le militaire accorde à son bazar, de sorte qu'il leur fait dépasser les bornes de l'usage ordinaire des paletots et des redingotes, et il en résulte que lorsqu'il les exhume, il a tout à fait l'air d'une vieille gravure de mode qui se promène. Si l'on rencontrait peu d'uniformes à l'estaminet hollandais, en revanche, on y voyait à chaque table force redingotes d'une coupe tout à fait originale, pas mal de col-cravates impossibles, et pas mal de ces pantalons à la cosaque que la mode avait dès cette époque sagement répudié. Il était en un mot facile pour tout le monde de reconnaître que cet établissement était entièrement garni d'officiers plus ou moins déguisés en bourgeois. Une épaisse fumée de tabac remplissait l'atmosphère, surchargée encore par les vapeurs qui s'exhalaient de quantités de bols de punch, consommation ordinaire des habitués. 5 ou 6 de ces derniers, qu'aux éperons qu'ils avaient conservés à leurs bottes, on reconnaissait pour des officiers de cavalerie, se tenaient dans l'angle de droite, du côté du jardin. Ils avaient déjeuné au café, et copieusement déjeuné, si l'on en jugeait par l'animation que leur conversation avait prise. Comme toujours, ces messieurs ressassaient sans l'épuiser jamais le texte de leurs entretiens favoris, le mérite des diverses garnisons et la comparaison de ces garnisons entre elles. « Ah, messieurs, disait notre ancienne connaissance le lieutenant Louville, que nous retrouvons au milieu de ce groupe, vive Tours en Touraine, jardin de la France d'abord, comme disent ces idiots de poètes. Mais à tout prendre, jolie ville. Des pruneaux excellents, un spectacle passable, des grisettes charmantes. Tours est la perle des garnisons. Ma foi, mon cher, répliqua un officier ventru à la figure enluminée, aux moustaches grises et taillées en brosse. « J'ai fait Tours. J'y suis resté 2 ans, et je vous jure que Tours ne vaut pas mieux que les autres garnisons. »«
Bon, et pourquoi prétendez-vous cela, capitaine ?»«
Parce que j'affirme que les 2 premiers mois écoulés, on s'ennuie dans les unes comme dans les autres. »
« J'aimais assez le Nord, » reprit un troisième interlocuteur.
« Nous avions là du tabac de contrebande excellent à fumer, et ma foi, pas cher. »«
Et Pontivy donc, messieurs, » s'écria un quatrième, « une pension parfaite, à 45 francs par mois. »«
Et toi, Gratien, ton avis ?» dit Louville.
« Mon avis, » répondit Gratien, « c'est que plus je vais, plus je reconnais que de toutes les garnisons par lesquelles nous avons passé, il n'en est pas une seule qui soit supportable. Ce qui m'encourage énormément à me tenir la promesse que je me suis faite à moi-même de donner ma démission, afin de ne plus sortir de la seule bonne et de la seule charmante ville de garnison qui existe, c'est-à-dire de Paris.
« Oui, dit Louville, cette prédilection se comprend en effet lorsqu'on possède un père qui, comme le tien, est plusieurs fois millionnaire. Et encore, je doute que, malgré tous ces millions, malgré tous les plaisirs de Paris, tu oublies les heures heureuses que tu as eues au régiment. »
« Où ? Et lesquelles ? Demanda Gratien.
« Ingrat, partout et toujours. Tiens, sans aller plus loin dans cette épouvantable ville de Chartres, à Autricum Carnutum, n'as-tu pas eu en la personne de cette petite Thérèse la plus délicieuse des aventures, une véritable aventure de Lovelace, coquin ?
Voyons, Louville, dit Gratien visiblement affecté, ne me parle pas de cela. Je t'assure que ce souvenir m'est au contraire parfaitement désagréable.
Pourquoi ? À cause de ce vieux fou qui, sous prétexte que tu avais eu les prémices du cœur de la jeune fille, voulait te forcer, toi, le baron Gratien d'Elben, à épouser une grisette sans le sou.
Ah, il était vraiment amusant, le bonhomme. Je l'ai bien roulé pour mon compte, surtout après que tu aies quitté l'intérieur pour le cabriolet.
Mais 1000 cigares, s'écria Louville, bondissant sur son tabouret. C'est lui-même qui entre.
Ah, nous allons nous amuser.
Regardez donc, messieurs, l'adorable tournure. Voyez donc avec quel air belliqueux notre voltigeur de Louis XV brandit son parapluie.
Hé, hey, monsieur !
Pas de folie, Louville, dit l'officier ventru.
Ce brave homme, ne l'oubliez pas, a 2 titres à votre respect. Son âge, qui est le double du vôtre, et le ruban rouge qu'il porte à sa boutonnière.
Bah, la croix de Saint-Louis!
C'est toujours le prix du sang, Louville, et ce n'est pas à nous autres soldats de rire de qui la porte.
Laissez-moi donc tranquille, capitaine. Quelque émigré, quelque échappé de royale cravate qui aura gagné son ruban à faire le pied de grue dans les antichambres.
Ma foi, je trouve trop bon d'en rire pour laisser échapper une si précieuse occasion.
Puis, s'adressant aux chevaliers de la Graverie, qui, les ayant reconnus, s'approchaient de leur côté, et se levant pour faire un pas au-devant de lui,
« Enchanté, monsieur, de vous revoir, » continua Louville.
« J'espère que la nuit d'avant-hier n'aura pas altéré votre santé et terni votre joyeuse humeur. »
« Non, monsieur, dit le chevalier, le sourire aux lèvres, comme vous voyez. »
« À part un petit reste de courbature, je me porte parfaitement. »«
Ah, tant mieux! Vous ne refuserez donc pas de vous asseoir au milieu de nous et de porter la santé de la charmante Thérèse, dont nous parlions justement à l'instant même où vous êtes entré. »
« Comment donc, monsieur ? » répondit le chevalier avec son imperturbable sourire.
« C'est beaucoup d'honneur que vous me faites, et je n'aurai garde de refuser. »
Vous plairait-il un verre de ce punch? Il est excellent et tout à fait propre à chasser les vapeurs noires de l'esprit et le brouillard de l'estomac.
Mille grâces, mon cher monsieur, mais en homme pacifique et paisible, je crains essentiellement les alcools.
Ils vous rendent féroce, peut-être?
Justement. Allons, Gratien, soyez donc plus aimable avec monsieur le chevalier, car, à votre ruban, monsieur, je ne crains pas de vous donner ce titre.
En effet, monsieur Louville, il m'appartient deux fois. Je suis chevalier de noblesse et chevalier d'occasion.
Eh bien, chevalier, il faut vous dire que votre ami Gratien est rêveur depuis 2 jours.
Je crois, moi, si vous voulez que je vous le dise, qu'il pense à la proposition de mariage que vous lui avez faite.
Monsieur Gratien ferait à merveille d'y penser, répondit le chevalier avec une parfaite bonhomie.
Oui, reprit Louville, mais il n'y a rien de pis qu'une pareille pensée pour alourdir l'esprit d'un brave garçon.
Voyons, que désirez-vous prendre, chevalier?
Un verre de limonade? Une topette d'orgeat? Une groseille?
Ah, une bavaroise, peut-être?
Précisément, monsieur, une bavaroise.
Garçon, cria Louville, une bavaroise à monsieur, très chaude et très sucrée.
Puis, revenant au chevalier.
Maintenant, monsieur, si toutefois ce n'est point indiscret de vous adresser une pareille demande, nous ferez-vous l'honneur de nous apprendre ce qui vous amène dans ce repaire que l'on nomme l'estaminet hollandais? Ce ne sont point cependant vos galeries, je présume.
Vous avez toujours raison, monsieur, et j'admire en vérité la justesse de votre esprit.
J'aime à voir que vous me rendiez justice.
Je venais dans l'unique espoir de rencontrer monsieur Gratien, que je n'ai point trouvé chez lui.
Ah, vous avez pris la peine de passer chez moi? Demanda Gratien, étonné.
Oui, monsieur le baron, et c'est de votre concierge que j'ai appris que si l'estaminet hollandais n'était point mes galeries, il était les vôtres.
Vraiment, interrompit Louville, vous veniez pour rencontrer Gratien?
Cela prouve que vous n'avez pas renoncé à votre idée.
Eh bien, tant mieux. J'aime les gens entêtés, moi. Et, ma foi, je passerai à votre bord tant est vive la sympathie que vous m'inspirez.
Voyons, au point où nous en sommes, il ne peut plus être question que du contrat de mariage.
Soit, discutons-en les conditions.
Gratien, à vous de parler le premier, mon ami.
Que mettez-vous en avant?
Combien en terre? Combien en rente sur l'État? Combien en obligation de chemin de fer? Combien en papier gara?
Louville, répondit Gratien, je vous prierai très sérieusement de ne point prolonger cette plaisanterie qui n'a déjà que trop duré.
J'ai fait connaître à monsieur ma résolution. Insister est un manque de goût qui m'étonne chez un homme de l'âge et du monde dont est le chevalier. D'un autre côté, railler, comme vous le faites, le sort d'une jeune fille, qu'après tout, je dois plaindre, serait de ma part un manque de délicatesse et de cœur.
Réfléchissez à ce que je viens de dire, monsieur. Réfléchissez-y, Louville, et j'espère que vous serez tous les deux de mon avis.
Point, répliqua le chevalier de la Graverie. Je trouve, au contraire, moi, que monsieur Louville dit des choses fort sensées et tout à fait convenables, de sorte qu'au lieu de lui en vouloir, je lui en sais un gré infini.
Là, tu vois, Gratien, allons donc, parle, et quitte cet air tragique, puisque monsieur, qui est le champion de mademoiselle Thérèse, est le premier à t'y convier.
Tu te tais?
Tenez, monsieur le chevalier, si vous parliez d'abord, peut-être cela le mettrait-il en train.
Commencez donc, mon cher monsieur, exposez-nous la richesse de votre protégé, et faites grandement les choses, car je vous préviens que notre ami Gratien
tout sous-lieutenant, que vous le savez, est riche, fort riche.
Mais pardon, voici le garçon qui vous apporte la bavaroise demandée.
Buvez, monsieur, buvez d'abord. Cela donnera de la douceur à vos propositions.
Le chevalier écoutait en souriant ce flux de paroles. Il remua lentement avec sa cuillère le breuvage qu'on lui présentait, le porta à ses lèvres, l'avala gravement, reposa le verre sur la table, s'essuya soigneusement la bouche avec un mouchoir de batiste, et, se tournant du côté de Gratien, « Monsieur, dit-il, j'ai réfléchi à la proposition que j'avais cru devoir vous faire avant-hier, et j'ai pensé qu'il serait ridicule à moi de mettre un prix à l'action juste, loyale, et toute naturelle en face de laquelle je plaçais votre conscience. »
Rien de si simple, pardieu, interrompit Louville.
Dotez Thérèse, et remarquez que je le puis, continua le chevalier, ce serait faire injure à votre délicatesse, et je ne serais pas étonné si la proposition que je vous en ai faite avait été la seule cause du refus par lequel vous avez répondu à mes avances.
Aujourd'hui, monsieur, je viens vous dire au contraire. Thérèse n'a pas de nom. Thérèse est sans fortune. Mais vous l'avez déshonorée.
Vous l'avez déshonorée, non pas en suivant la pente d'un mutuel entraînement, mais en appelant à votre aide le plus odieux, le plus lâche des subterfuges. Vous ne pouvez donc pas hésiter à la voie impérieuse du devoir.
Bravo! Voilà des arguments irrésistibles. Allons, à toi la parole, Gratien, plaide ta cause. Elle n'est pas bonne, je t'en préviens. Figure-toi que tu es devant le jury et que je suis son président.
Ma réponse sera courte, dit Gratien avec une certaine dignité.
Je dirai à monsieur le chevalier,
le jeune homme s'inclina légèrement, je lui dirai que ces injures trouveront ma détermination aussi inébranlable que ses promesses. Que mademoiselle Thérèse soit riche, qu'elle soit pauvre, peu m'importe. Et j'ajouterai qu'il est fort heureux pour lui que sa tête soit blanche, car sans cela, je me croirais obligé de répondre tout autrement à certaines parties de son discours.
Mon Dieu! « Ne vous gênez pas, mon cher monsieur, dit tranquillement le chevalier. Que ma tête soit blanche ou grise, peu vous importe, pourvu qu'elle consente à se placer au bout de votre pistolet ou à la pointe de votre épée. »«
Ah, ça! Mais sais-tu, Gratien, qu'il devient provocateur, le bonhomme ?»«
Cela vous étonne, mon cher monsieur Louville, dit le chevalier, avec son air placide. »
« Supposeriez-vous, par hasard, que le courage n'est que de l'étourderie ?»«
Alors c'est autre chose, dit Gratien. »
Le chevalier se retourna de son côté, le sourire toujours sur les lèvres.
« C'est, continua le jeune homme, avec l'intention bien positive de m'offenser, que vous avez prononcé les paroles de tout à l'heure.
Je ne me suis pas inquiété si elle pouvait... « Ou non, offensé monsieur, dit le chevalier. Je les ai dites parce qu'elles caractérisaient parfaitement votre conduite. Voilà tout. »
« En un mot, monsieur, vous êtes venu ici à l'estaminet hollandais, aujourd'hui, samedi, avec l'intention de me dire, en présence de mes camarades, « Épousez mademoiselle Thérèse ou vous aurez affaire à moi. »
« Précisément, monsieur le baron. »
Puis, frappant sur son verre avec la cuillère. « Garçon, dit-il, une seconde bavaroise. »«
Mais non, s'écria Gratien. »«
Quoi non?
Un duel avec vous serait trop ridicule. »«
Ah, vous trouvez ?»«
Oui. »«
Vous trouvez qu'il serait ridicule de tuer un bonhomme qui, en somme, peut très bien vous fourrer un coup d'épée dans la poitrine ou vous loger une balle dans la tête. » Et il ne vous semble pas, comme à moi, lâche et infâme, d'employer un dégoûtant subterfuge pour ravir plus que la vie. La seule chose que je risque en me battant avec vous, pour ravir l'honneur à une jeune fille sans défense. »
En vérité, vous manquez de logique, monsieur Gratien. Merci, garçon. »
Ces dernières paroles étaient adressées en effet au garçon, qui déposait devant le chevalier sa seconde bavaroise.
Eh bien, soit, dit Gratien, après avoir réfléchi un instant, et plus exaspéré peut-être de la tranquillité du chevalier que des injures que celui-ci lui avait dites.
Soit, puisque vous le voulez absolument.
Vous épouserez Thérèse ?
Non pas, monsieur, mais je vous tuerai.
Oh, ceci, monsieur, dit le chevalier, en versant sa bavaroise de la carafe dans son verre, sans que sa main dénonçât la moindre agitation fébrile, ceci, c'est une question.
Attendons à demain pour la résoudre, jeune homme, et ne parlez pas au futur. Qui parle au futur risque de se tromper.
Ainsi, voilà qui est bien décidé. Nous nous battrons.
Oui, certes, nous nous battrons, répondit Gratien, les dents serrées par la colère, à moins que vous ne rétractiez les paroles que vous venez de prononcer.
Et en effet, Gratien laissait cette dernière porte ouverte au chevalier, ne se décidant qu'à regret à ce duel, dont il comprenait le caractère odieux et ridicule.
« Rétracté, fit le chevalier, en portant son verre à sa bouche et en humant lentement sa seconde bavaroise.
« Oh, que vous ne me connaissez guère, mon cher monsieur Gratien. Je suis long, très long à me décider. Mais une fois mon parti pris, j'ai l'habitude d'imiter Guillaume le Conquérant et de brûler mes vaisseaux. »
Et, en prononçant ces paroles, le chevalier lança au visage de Gratien ce qui restait de bavaroise dans son verre. Le jeune officier voulut se précipiter sur le vieillard, mais ses amis, Louville tout le premier, se cramponnèrent à lui et le retinrent.
« Votez-moi, monsieur, hurlait Gratien.
Demain matin, ils iront s'entendre avec les vôtres, monsieur.
Où cela ?
Voulez-vous prendre rendez-vous aux Tuileries, terrasse des Feuillants, en face de l'hôtel de Londres où je loge, de midi à 1 heure, par exemple ?
Vos armes ?
Ah, monsieur, pour un militaire, vous ne connaissez pas les premières règles du duel.
Mes armes ? Cela ne nous regarde ni vous ni moi.
Cela regarde nos témoins.
Vous êtes insulté, faites vos conditions aux vôtres.
Soit. Et vous, messieurs, je vous prends à témoin, s'écria Gratien, que si un malheur arrive à ce vieillard, c'est qu'il l'aura cherché. Que son sang, si son sang coule, retombe donc sur sa tête.
Et, en achevant ces paroles, le jeune officier, suivi de ses amis, sortit de l'estaminet.
Le chevalier, resté seul, chercha au fond de son verre une dernière goutte de bavaroise. Puis il dit à demi-voix, en reprenant son parapluie dans l'angle de la fenêtre où il l'avait déposé en entrant,
« Mon Dieu, que je suis donc contrarié que cet imbécile de Black se soit laissé voler. Si Duménil eût pu me voir, il eût été content de moi. »